Il est midi 4 sur France Inter. Tout de suite, question politique avec Ali Badou.
Bonjour. Merci d'être fidèle à Question Politique, le rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Heureux de vous retrouver en ce dimanche 9 mai, journée de l'Europe. Journée en souvenir de la déclaration Schuman, ce texte fondateur de la construction européenne. Pour se souvenir justement de cette construction politique inédite et qui a commencé ce 9 mai 1950, 71 ans après, dans quel état l'Europe est-elle ? Dans quel état l'Europe pourra-t-elle sortir de cette séquence que nous traversons tous, à savoir l'épidémie de Covid-19 ? L'Europe peu enthousiaste, vous le savez, sur la levée des brevets sur les vaccins, et on veut savoir pourquoi. Pourquoi les questions industrielles sont-elles également posées malgré le plan de relance massif annoncé par la présidente de la Commission ? Comment se passent les tensions avec le Royaume-Uni sur la pêche ? Notre invité jusqu'à 13h. C'est le commissaire européen, il est chargé du marché intérieur, de la politique industrielle, du numérique, de la défense et de l'espace, Thierry Breton. Pour intervenir, le hashtag #QuestionPol.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Bonjour Thierry Breton.
Bonjour.
Et bienvenue l'équipe de questions politiques pour vous interroger, Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour Ali, bonjour à tous. Bonjour
Thierry Breton. Françoise Fressoz du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Karine qui a préparé votre portrait, une mise à jour, un rafraîchissement disons, pour on le découvrira ensemble tout à l'heure le 9 mai, journée de l'Europe. Comment se fait-il que cette journée ne soit pas commémorée solennellement, qu'elle ne soit pas un moment de fête que les 27 pourraient partager ?
Non, c'est une bonne idée. D'abord, je voudrais dire que l'Europe ne démarre pas en 1950. L'Europe, c'est toute une histoire. C'est une histoire millénaire. C'est vrai que 1950, ça marque un virage extraordinaire, hein, après l'après-guerre. J'étais moi-même du reste cette semaine dans la maison de Robert Schuman, c'est quand même tout un symbole. Son père né allemand, il devient français, il redevient ensuite luxembourgeois, puis français, lui-même, sa mère est luxembourgeoise, il va avoir la double nationalité franco-allemande, et puis finalement il va devenir français. Enfin voilà, c'était vraiment le cœur de l'Europe.
Oui.
Mais c'est vrai que cette date est tout à fait symbolique, hein, c'est vraiment la fondation de cette Europe nouvelle d'après-guerre que nous avons
voulu. Mais elle est symbolique, il faut s'en souvenir, il faut faire l'effort de s'en souvenir, je ne sais pas combien d'Européens savent que c'est aujourd'hui qu'on commémore la déclaration Schuman.
C'est une bonne suggestion. Du reste, peut-être sera-t-elle reprise, puisque vous savez qu'il y a une conférence pour l'avenir de l'Europe, le futur de l'Europe, qui est lancée aujourd'hui, du reste. Emmanuel Macron se rend à Strasbourg donc pour lancer cette grande discussion, mobilisation. Donc peut-être en sortira-t-il du reste.
Il se rend à Strasbourg pour ne pas aller à Bruxelles, alors que nous savons que le cœur du pouvoir c'est là-bas.
Ah, on ne sait pas vrai. On sait qu'il y a un Parlement qui est important.
Question de Françoise Fressoz.
Alors justement à propos de cette conférence sur l'avenir de l'Europe, vous en tant que partie prenante aujourd'hui, commissaire très engagé, est-ce que vous reconnaissez quand même des lacunes, des failles béantes dans l'Europe ? On dit beaucoup que la pandémie est en train d'accélérer au fond la déportation du monde vers l'Asie, qu'on va assister à une compétition entre les États-Unis et la Chine et que l'Europe risque d'être fortement marginalisée. Comment vous, en tant qu'acteur, vous appréciez les forces et faiblesses aujourd'hui de l'Europe ?
Thierry Breton.
Depuis que je suis né, et depuis que je suis en âge de porter jugement précisément sur l'Europe, j'espère que de plus en plus d'écoliers vont pouvoir le faire, j'ai toujours entendu ce que vous venez de dire, Madame Fressoz, en d'autres termes. Voilà, l'Europe lacune, il n'y a pas assez d'Europe, il y a trop d'Europe, l'Europe veut faire les choses. Cette question, elle est inhérente à la construction européenne. La construction européenne, c'est sans cesse du mouvement. Mais voyez-vous, il y a une chose qui est intéressante et je crois qu'il faut avoir en tête au regard de ce que vous venez de décrire, et je le résume, la crise de la Covid, donc cette pandémie, les relations désormais très très tendues, et le mot est faible, entre les États-Unis et la Chine. On les a connus du reste en autre temps entre les États-Unis et la Russie, ou l'Union soviétique. Cette nécessité désormais de nous endetter en commun. Ce que je retiens, moi, de la construction de l'Europe, c'est que l'Europe avance dans les crises. Et dès qu'elle a avancé, elle ne recule jamais. Qu'est-ce qu'on a fait au cours des trois dernières...
On va en parler justement de ce semestre. Que vous avez fait de ce bilan, parce que vous avez une vision très optimiste pour répondre à la question de
J'essaie surtout qu'elle soit le plus réaliste possible.
Bah, le réalisme, c'est vous, ancien patron d'Atos, on a vécu une accélération de la numérisation du monde ces derniers mois, une accélération vertigineuse. Aujourd'hui, comment peut-on accepter que les GAFA, ceux qui refont le monde, et les Chinois, sont... des Américains, que l'Europe est devenue un nain technologique pendant cette période. On est totalement ou quasiment absent de la tech. Ça, c'est un constat qu'on ne peut pas éviter. Et comment changer la donne ?
Et que je ne partage pas. Et que je ne partage pas, vous m'avez du reste invité il y a quelques mois pour cela, lorsque je vous avais expliqué ce que nous avons proposé comme régulation précisément de notre espace informationnel, avec ce fameux DSA et ce fameux DMA, une première mondiale. Je ne le partage pas parce que, voyez-vous, pas plus tard que vendredi, j'ai réuni, puisque nous avons proposé une refonte de notre stratégie industrielle pour accélérer encore précisément notre autonomie, j'ai réuni 27 chefs d'entreprise du monde de la tech européen et des très grandes entreprises, et nous avons arrêté en commun, les fondamentaux pour pouvoir précisément aller de l'avant dans la création d'une alliance sur le cloud industriel, c'est-à-dire, vous avez raison, la première vague des données personnelles, c'est vrai que l'Europe a perdu cette bataille-là, mais la seconde qui est devant nous, qui sera beaucoup plus importante, c'est toutes ces milliards et milliards de données que l'on va créer dans les processus industriels, les voitures connectées. L'Europe est le premier continent dans la création de ces données, croyez-moi, on s'est tous dit les 27, que cette vague-là, on va pas la rater.
Alors, il y a aussi une question, évidemment, Nathalie Zincric, oui, qui concerne l'actualité la plus brûlante et la course au vaccin.
On a l'impression que c'est Joe Biden qui est en train de prendre le leadership. Il propose un plan de relance massif. Il propose aussi la levée des brevets. Est-ce que, en proposant cette levée de brevets, c'est juste un coup politique ou c'est quelque chose qui sert à quelque chose? On a l'impression qu'en Europe, on est très, très, très divisé sur le sujet. Quelle est votre position?
Thierry, vous voyez, je disais tout à l'heure, l'Europe avance dans les crises. Et elle avance de façon durable. On vient de décider de nouveau, désormais, un achat complémentaire de 1,9 milliard de doses. Ça veut donc dire que on s'engage. Moi, j'ai pas peur de le dire. J'ai entendu, comme vous, j'ai vu, comme vous, évidemment, les premiers mois où certains, parce que c'est vrai qu'on a un peu trop écouté ce qui se passait en Grande-Bretagne et on aura l'occasion d'en reparler. La réalité, c'est qu'effectivement, on a tous entendu un début qui était un début qu'on a voulu plus rapide. On sait la raison. C'est une défaillance d'un de nos fournisseurs qui s'appelle AstraZeneca. On a très rapidement comblé ce retard. Aujourd'hui, on est au même niveau que les autres. L'Europe est devenue, écoutez-moi bien, le premier continent du monde en matière de fabrication vaccinale en moins de 10 mois. C'est incroyable. Personne n'aurait pu l'imaginer. Et nous fournissons. Et nous fournissons pour nous, pour nos concitoyens, la moitié des doses. Et je tiens à vous dire que je maintiens l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire de fournir suffisamment de doses à tous les États membres pour pouvoir vacciner 70% de la population adulte à la mi-juillet.
Juillet au 14 juillet, vous engagez, vous maintenez cet engagement.
Et donc je le maintiens, parce qu'effectivement on voit nos usines qui ont accéléré de façon absolument extraordinaire, 53 usines sur le continent européen, c'est une complexité majeure des chaînes d'approvisionnement qui sont aujourd'hui, qui tournent 24 heures sur 24. Mais alors voyez-vous, c'est assez intéressant tout ça, parce que l'Europe, comme d'habitude, on la critique, on a l'habitude. On la critique surtout quand elle est excellente. Et moi, j'ai pas peur de vous le dire.
Mais ma question,
nous sommes
sur
le seul continent, j'y reviens, j'y viens.
D'accord.
Nous sommes le seul continent à avoir décidé, avec des vaccins qui ont tous été, du reste, par parenthèse, découverts en Europe avec des scientifiques européens. Alors certes, accélérés par des financements américains, très bien, les dollars américains sur la science européenne, ça a marché. Enfin, c'est la science européenne. Nous fournissons maintenant
les
la moitié de nos doses.
Contents de savoir qu'ils appartiennent à l'Europe.
La moitié de nos doses. Nous fournissons maintenant la moitié de nos doses, effectivement, pour 90 pays autour de nous. Et pendant ce temps-là, les États-Unis, je ne les critique pas, c'est une constatation. Je vous la livre aujourd'hui. Les États-Unis ont décidé, écoutez-moi bien, que tant qu'il n'y aurait pas l'immunité totale aux États-Unis, pas une seule dose quitterait le territoire américain. Et en plus, pas un seul composant des chaînes d'approvisionnement.
Donc c'est un coup politique, l'histoire de la levée des brevets.
Moi, lorsque j'ai été chargé le 5 février de prendre en main ce sujet industriel, la première chose que j'ai faite, j'ai commencé évidemment à engager des discussions approfondies avec mon homologue américain. Bon voilà, on a été un peu... Je lui ai dit, écoutez, c'est bien, mais enfin, on est tout seul aujourd'hui à fournir l'ensemble des doses pour tous les pays de l'OTAN, 70% des doses pour les Britanniques, 100% des doses pour Israël, 100% des doses pour le Canada, pour le Mexique. Voilà, il faudrait peut-être que maintenant on travaille un peu. Ça a été un peu compliqué, mais ça va un peu mieux. Donc, première chose, disons que tout le monde, tous ceux qui produisent, aujourd'hui, c'est qui produit ? Il faut appeler un chat un chat. C'est l'Europe en numéro 1 et les États-Unis en numéro 2. Bon, nous, on a décidé d'ouvrir pour pouvoir, parce que le virus, il n'a pas de frontières. Et deux, effectivement, il faut que les États-Unis, très vite, ouvrent leurs frontières aussi, comme l'ont fait les Européens. Deuxième question, elle est légitime. Et je l'ai dit, je le redis devant vous et aujourd'hui. Il faut se poser cette question. Et il est légitime de se la poser. Je pense que c'est le moment de le faire. Mais ne nous trompons pas. Entre le moment où on pose cette question, le moment où on a l'accord à l'OMC, voilà, on n'est pas un grand clerc pour penser qu'il va se passer quand même plusieurs mois. Mmh. Et admettons qu'on ait cet accord, et je crois que ce sera intéressant, il faudra à ce moment-là que les transferts de technologie se fassent.
Donc le problème,
pour faire
c'est
une usine,
production.
Madame Saint-Cric, il faut en gros 12, 14, 15, 20 mois. Ensuite, pour fabriquer le premier vaccin sur cette usine, il faut 100 jours. Donc oui, entre-temps, bah, il faut bien qu'on s'occupe du reste du monde.
Donc,
et qui s'en occupe ?
Les
Européens en numéro un. On appelle nos amis américains à le faire comme nous. Mmh. Et puis ensuite, effectivement, il faudra se poser cette question. C'est très bien qu'on commence à se la poser dès aujourd'hui. Je suis de ceux qui l'ont toujours appelé de mes voeux. Et puis derrière, il y a aussi, c'est vrai, il y a eu beaucoup d'argent public, il y a des enrichissements. Tout ça, il faut le mettre sur la table.
Alors justement, je rebondis sur ça, parce que pour cette recherche des vaccins, effectivement, il y a beaucoup d'argent public qui a été posé sur la table. Des sommes astronomiques qui ont été versées, investies par les différents États, notamment les États-Unis, vous l'avez dit.
Essentiellement, madame.
Oui, c'est ces bénéfices, finalement, que vont engranger les labos pharmaceutiques. Est-ce qu'ils doivent être engrangés uniquement par ces labos ou est-ce qu'il faut organiser les choses différemment ?
Non, mais c'est une très bonne question. Et la BARDA est l'instrument. Je le redis parce qu'il faut vraiment qu'on le comprenne. Reprenons, et donc il faut être précis. Sur les 5 vaccins, je dis
ça. BARDA.
La BARDA, c'est l'organisme américain qui a été créé en 2006 après les événements du 11 septembre pour pouvoir doter cette agence autonome de moyens importants pour intervenir en amont en cas de risque bactériologique ou chimique et donc trouver des antidotes. Bon. Et donc il y a de l'argent qui est, je dirais, avec un contrôle parlementaire relativement faible et qui donne une liberté d'intervention. Mais la BARDA. Elle a investi là où la recherche s'est effectuée. Sur les 5 vaccins qui fonctionnent aujourd'hui, je pense qu'il y aurait dedans, 4 ont été découverts, développés par des scientifiques européens en Europe. C'est la science de l'Europe. Et pourquoi ça a marché ? Parce que précisément, on a mis l'argent américain pour accélérer quoi ? Les évaluations cliniques. La recherche, elle a été faite. Les évaluations cliniques, c'est ça qui prend du temps et qui coûte très cher. Et puis, le début de la mise en œuvre des usines. Il y a des entreprises, Pfizer, ils ont refusé l'argent américain.
Ouais.
Donc, ça dépend. Donc, on peut pas généraliser.
Mais est-ce qu'il est légitime que les bénéfices reviennent à ces labos pharmaceutiques ?
Non, mais il y en a qui ont pris l'argent, il y en a qui l'ont pas pris. Donc, il va falloir sans doute peut-être, vous voyez, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Mm-hmm. Il n'en demeure pas moins que moi, je suis de ceux qui pensent que dans des crises de cette ampleur, il faut pas avoir peur de se poser ce type de questions, comme on se les posait notamment dans la crise précédente, où précisément, vous vous souvenez, sur les grandes banques, certaines avaient bénéficié d'argent public, vous vous souvenez que certains dirigeants avaient du coup eu des bonus qui étaient en relation non pas avec leur performance opérationnelle, mais l'argent public. Oui, il va falloir se poser cette question.
Donc il faudra en rendre une partie à la BARDA, par exemple.
Je dis qu'il faudra se poser cette question. Non, on ne rendra certainement pas, mais il faudra se poser cette question, et y compris
d'autant
la notion d'un bien public.
Thierry Breton, je suis pour ceux
qui pensent qu'effectivement, il y a un moment où ça doit passer dans le domaine public. Mmh. Mais entre-temps, il faut organiser le pont, parce qu'entre-temps, il faut vacciner, et c'est nous qui allons vacciner.
Mais oui, parce que c'est ça la question. C'est-à-dire qu'on voit la complexité de cette machine. On voit les concurrences entre les États-Unis, les Européens, les Britanniques, par exemple. Mais au fond, ce qui préoccupe tout le monde, c'est la course à la vaccination. C'est le retard qu'on a pris en Europe. C'est regarder tout simplement ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique ou de la Manche et voir que c'est allé beaucoup plus vite ailleurs, en Israël.
Alors, vous avez raison, Ali Badou, je sais tout ça. Je sais cette comparaison. Et pour moi,
c'est ce qui domine comme sentiment chez les citoyens européens.
De moins en moins. Parce que comparaison n'est pas raison. Vous prenez 3 exemples. Israël, c'est un pays, un grand pays, mais enfin, c'est un pays qui est plus petit que la région Île-de-France. Et donc, pour que Israël puisse avoir on parle de 5 millions de doses au début, On parle pas de 446 millions, nous sommes. Israël a négocié, c'était une très bonne chose, avec Pfizer, que les vaccins qui sont fabriqués en Europe, je le répète, C'est l'Europe qui vaccine à 100% Israël. Les vaccins qui sont fabriqués en Europe, eh bien, il y en a 5 millions qui puissent partir en Israël parce qu'Israël avait décidé avant les autres d'échanger ses données thérapeutiques, les données de santé de ses concitoyens, bien sûr anonymisées. Ça a été important parce que ça a permis d'un point de vue scientifique de le faire. Voilà, on est 446 millions, on n'aurait jamais pu. On a créé 400 millions de vaccins jusqu'à présent, on est les premiers au monde. Donc vous voyez,
mais il faut toujours relativiser. Mais vous dites que les problèmes d'approvisionnement sont aujourd'hui finis?
Pardon?
Ils sont derrière nous aujourd'hui, les problèmes d'approvisionnement, il n'y en aura plus?
J'en suis absolument certain, on est en train de rattraper. Donc ce que je veux dire, mais on est en train même massivement de rattraper ce retard, mais c'était prévu. Souvenez-vous, je vous l'avais dit, 14 millions de production en janvier, 28 millions en février, 64 millions en mars, 120 millions en avril. On est aujourd'hui sur une pente où on va fabriquer à la fin de l'année plus 3 milliards de vaccins par an. On est le premier. Alors bien sûr, on a pris un peu de retard sur les deux premiers mois à cause du problème, les deux premiers mois seulement, hein, à cause du problème essentiellement AstraZeneca qui devait nous livrer 120 millions de doses, qui les a livrées intégralement au Royaume-Uni et nous que 30 millions. On a corrigé très vite. Et aujourd'hui, je le dis, regardons à la fin les objectifs du Royaume-Uni, c'est à la fin juillet, uniquement 70% de la population adulte avec une dose. Les États-Unis, c'est à peu près pareil. Donc, je pense sincèrement qu'on est en train de rattraper. Alors, il faut évidemment que les États membres suivent. C'est compliqué, la logistique. Beaucoup m'ont dit du reste.
Mais quand on les regarde, malgré tout,
beaucoup,
avec envie.
Beaucoup m'ont dit du reste qu'ils pourraient atteindre cet objectif avant mi-juillet.
Françoise Fressoz, puis Nathalie
Saint-Cricq. Est-ce que vous avez une solution pour lever les réticences sur le vaccin AstraZeneca qui concerne les plus de 55 ans aujourd'hui?
Là encore, ça dépend des pays. Moi, je suis toutes les semaines évidemment, dans un ou deux pays européens, c'est normal, c'est ma fonction, c'est ma responsabilité. Et je peux vous dire que, voilà, on voit les choses différemment. Ce qui est très important, c'est que, je le dis, partout en Europe, il y a vraiment une très grande confiance dans notre agence, l'EMA, qui est notre autorité de santé européenne, qui est, j'ai vraiment pas peur de le dire, est la meilleure au monde, la plus sérieuse au monde, la plus crédible. Et donc, on suit ses recommandations, et ces recommandations sont absolument sans nuance. C'est un bon vaccin. Il y a éventuellement quelques limites. Bah, encore une fois, c'est extraordinairement modeste, comme tout médicament qu'il faut suivre. C'est pour ça que c'est bien de le faire avec un personnel de santé qui va pouvoir, intermédier la relation entre le patient et le vaccin.
N'oubliez pas les citoyens et nos auditeurs.
Mais
les
citoyens et les auditeurs.
La réticence, elle est là. Comment la vaincre?
Je l'entends et c'est pour ça que je le dis. Nous avons cette chance d'avoir non pas une vaccination obligatoire comme dans certains pays que je ne citerai pas, en particulier autoritaires, mais d'avoir pour nous d'abord le choix et la possibilité, eh bien finalement, de pouvoir choisir le vaccin qui va bien en fonction de la personne.
Mais Thierry Boudon, on en achète encore du AstraZeneca? La Commission européenne en achète encore?
On en a encore.
La dernière commande, c'est 1,8 milliard de Pfizer. Il n'y a pas d'AstraZeneca.
Effectivement, on n'a pas renouvelé. C'est une excellente question. On n'a pas renouvelé la commande après le mois de juin. On verra. On regarde ce qui se passe. On verra. AstraZeneca est un vaccin d'abord simple adénovirus. C'est un vaccin qui est très intéressant. Il a été découvert par des chercheurs de Oxford. Il est très bon. Il a surtout l'intérêt de pouvoir être utilisé dans des conditions, comme vous savez, logistiques et de température qui permettent d'aller vacciner des personnes.
C'est quand on ne renouvelle pas une commande, c'est qu'on n'en est pas
satisfait.
C'est pas
encore fait. On a commencé, on en aura d'autres. Donc là, je vous le dis de façon très sérieuse. On a commencé effectivement avec Pfizer parce qu'on est en train de travailler BioNTech, parce qu'on est en train de travailler sur la deuxième phase des vaccins dits de deuxième génération, c'est-à-dire nous mettre en situation, là encore, avant les autres, de pouvoir proposer des variants. Puis voyez-vous, et pour reprendre à la première question, Mme Fressoz, c'est très intéressant, parce que tous les pays unanimes ont soutenu cette approche, ce qui veut donc dire que maintenant, sur les 2, 3, 4 ans qui viennent, on a tous décidé en commun d'avoir notre destin sanitaire, et notamment vis-à-vis des vaccins, en commun. Ça veut dire que je ne perçois pas le moindre risque que dans les 3, 4, 5 ans qui viennent, il y ait un seul pays qui soit tenté de faire cavalier seul, comme c'était le cas avec nos amis britanniques. C'est ça la construction de l'Europe.
Je voudrais juste vous demander s'il est logique et s'il n'est pas finalement de bon sens de mettre fin à la priorisation qui a été le cas en France au début. C'est-à-dire qu'on a commencé à dire les plus de 55, plus de 60, plus de 70, comorbidité, les obèses, les je sais pas quoi. Les gens qui ont diabète, maintenant on a l'impression que c'est ouvert à tout le monde et que c'est parce que l'urgence c'est de vacciner tout le monde et que la deuxième urgence c'est comme il reste des lots d'AstraZeneca dont personne ne veut, finalement que les gens qui en veulent le prennent.
Ça te fait partout en Europe. Non, je crois
Oui, donc c'est bien.
Non, je crois que c'est peut-être fait partout en Europe.
On aurait dû faire plus tôt.
Je crois vraiment qu'il fallait vraiment. Je suis pas encore une fois un épidémiologiste, et donc je veux pas sortir.
Mais vous voyez ce qui se passe ailleurs.
Mais je vois ce qui se passe ailleurs, et ça a été partout la même chose. Et je crois que c'est une bonne chose. Il fallait évidemment d'abord cibler les personnes à risque. Or, il y a des personnes à risque pour cette maladie. C'est comme ça. Elle est comme ça. On connaît les problèmes de comorbidité. On connaît évidemment maintenant statistiquement, quand même, hélas, un nombre tellement important de victimes de cette pandémie que on a maintenant des statistiques qui nous permettent de mieux intervenir, de mieux cibler, et donc je crois que c'était une très bonne chose de cibler les plus fragiles, les plus vulnérables au début, et maintenant on est maintenant encore une fois à quelques semaines du 15 juillet et donc on va y arriver.
Karine Bécard.
Une toute petite question, mais qui est hyper importante. On parlait de la commande d'1,8 milliard de doses de Pfizer. Combien les a achetées l'Union européenne? On croit comprendre qu'elles ont coûté plus cher qu'initialement.
C'est une question qui ne m'appartient, à laquelle il ne m'appartient pas de répondre aujourd'hui. Elle sera connue.
Est-ce que simplement Pfizer joue la surenchère, comme on le lit dans la presse?
J'ai lu que certains disaient que c'était un petit peu plus cher que la première.
Est-ce qu'ils en profitent de leur situation?
Je ne peux pas dire ça. Ce que je peux dire en revanche, dans ma responsabilité, puisque je suis le responsable de la task force, mais encore une fois, l'information sera connue. Il n'est pas impensable qu'effectivement, compte tenu du fait que ces vaccins de deuxième génération, ça va être pratiquement deux en un, c'est-à-dire qu'on va plus avoir deux doses. On essaie de trouver les moyens pour précisément avoir une seule dose qui réponde aux variants. Donc, il y a un petit peu, de recherche et aussi d'adaptation de l'outil industriel en plus. Mais vous aurez cette réponse en temps et heure et les États membres l'ont. En ce qui me concerne, moi, je tenais à vous dire que responsable de la plateforme industrielle européenne. Et je le redis à nos auditeurs ce matin, j'aurais jamais pu imaginer, vous voyez, on parle de rapatrier, etc.
Oui.
En moins d'un an, alors qu'on était vraiment, on savait qu'on avait perdu main, on le disait du reste, dans les industries pharmaceutiques, l'Europe a su se donner les moyens de devenir le premier continent au monde en matière de fabrication de vaccins aussi compliqués.
Oui, mais ma question, c'est de savoir si Pfizer exagère un peu ou pas.
À ARN messager et à adénovirus. Et pour répondre à votre question, j'ai donc mené une mission, préalablement à la signature de ce contrat, c'est une de mes équipes que j'ai envoyée sur l'ensemble des sites pour voir effectivement la réadaptation que ça nécessitait. Si l'entreprise était capable de fournir, la réponse est oui. Donc il y aura peut-être un petit surcoût, mais je laisserai les autorités compétentes le dévoiler en temps et heure.
Françoise Fressoza.
Si on se projette un peu plus dans l'avenir, vous pensez qu'il va falloir se vacciner très régulièrement, presque chaque année, contre le virus? On parle aussi de vacciner les enfants, les adolescents. Comment vous voyez les années à venir passer au fond le pic actuel?
Je ne peux pas répondre à cette question. Ce que je sais, c'est que c'est notre devoir de nous y préparer. Et on s'y prépare. Et on se prépare précisément avec une plateforme, je le rappelle, plus de 3 milliards, bientôt 4 milliards de fabrication de vaccins par an en Europe. On est 8 milliards sur la planète. Ça vous donne l'idée de ce que nous sommes en train de faire pour nous et pour les autres. Deuxième point, nous avons décidé également à la Commission avec Ursula von der Leyen, mais aussi avec un certain nombre de mes collègues commissaires, de commencer à travailler sur l'implantation d'usines de vaccins, notamment en Afrique, parce qu'il faut, c'est bien beau pour se préparer à ce que vous dites, mais il faut aussi qu'on ait des usines qui commencent à être implantées en Afrique, notamment évidemment au Sénégal, il y a l'Institut Pasteur en Afrique du Sud, donc on y travaille. On veut, c'est notre réponse à nous, hein, les brevets, oui, mais l'infrastructure industrielle en même temps. Donc on travaille aussi à ça. Et puis d'une façon plus générale, oui, bien sûr, il faudra se poser cette question, on se la pose. On est préparé maintenant avec l'outil industriel qui est capable de répondre, avec les contrats que nous venons de signer. Il y en aura d'autres, hein, je tiens à dire. On n'a pas signé uniquement un contrat qu'avec Pfizer-BioNTech. Il y aura d'autres contrats qui vont nous permettre de pouvoir nous couvrir et répondre le cas échéant à ces besoins. Est-ce que ce sera tous les ans? Personne ne le sait, mais en tout cas, on sera préparé. Est-ce que ce sera pour les enfants? C'est pas impossible. On voit que certains pays commencent maintenant à le faire. Les vaccins, en tout cas, notamment Pfizer, mais d'autres également, sont en train de travailler pour des vaccins, évidemment, qui sont dimensionnés différemment,
oui.
Pour les adolescents, voire pour les enfants. Et donc, si les autorités de santé le demandent, on sera prêt.
On essaie de penser aussi à quelque chose d'heureux, aux vacances qui approchent, à l'été qui approche, Thierry Breton.
Est-ce qu'il n'y a pas une forme de frilosité vis-à-vis du pass sanitaire, alors que si effectivement on progresse dans l'objectif de vacciner la majorité de la population, comme vous le dites, ça serait bien d'accélérer ce principe qui permettrait à tout le monde de bouger ou de faire ce qu'on faisait avant.
Écoutez, on a eu vraiment cette situation. Moi, j'ai beaucoup poussé, comme vous le savez, puisque ça dépend aussi de mon portefeuille en ce qui concerne la mise en œuvre numérique. Et puis avec mon collègue Didier Reinders, qui est le commissaire donc à la justice, tous les deux, donc on copilote cette mise en œuvre. Alors et on a vraiment beaucoup poussé. Et on a poussé, vous savez, comme on dit, le temps c'est très important en politique. Hein, et nos concitoyens, il faut toujours penser aux personnes avant. On est rentré dans cette troisième phase de confinement. Vous vous souvenez, j'ai voulu annoncer tout de suite que grâce à notre effort industriel, c'était sans doute, on espère, la dernière, qu'on voyait la lumière au bout du tunnel et qu'on voulait se préparer précisément, parce que la campagne vaccinale nous permettait de le faire, à offrir dès mi-juin un pass sanitaire à ceux qui le voudront. C'est donc il y a des principes de base, hein, qui sont très importants pour nous autres Européens. D'abord, complètement, les données sont totalement anonymisées. Il n'y a aucun risque qu'on sache.
À quoi ça ressemblera
sur votre portable. Vous pouvez du reste l'avoir déjà parce que l'application française
le permet.
Donc c'est très intéressant.
Si on a été vacciné récemment.
Donc je n'y ai pas droit pour le moment.
En tout cas, il y a quand même, on a maintenant, Dieu soit loué, beaucoup de nos compatriotes qui l'ont été. Donc ils peuvent la télécharger. Donc ils ont déjà un aperçu. La France est.
Ce
ne sera pas obligatoire.
Mais qu'est-ce qui vous empêche, par exemple, de dire à une compagnie aérienne non, vous ne pouvez pas exiger ce QR code pour laisser monter un passager dans vos avions ces vacances-ci?
Aujourd'hui, comme vous le savez, les compagnies aériennes sont responsables de la responsabilité de la sécurité de leurs passagers pendant le vol. Si elles estiment que la relation de leurs passagers par rapport à la maladie est un élément important, ils auront la possibilité de demander effectivement d'avoir la preuve que vous n'êtes pas porteur du virus. Ce qui existe aujourd'hui aujourd'hui, vous le savez tous, avec les tests PCR.
Imaginons que j'ai ça dans mon téléphone. Qu'est-ce que je vais avoir le droit de le faire à l'échelon européen? Est-ce que je peux aller en Espagne, en Grèce, au Portugal, en Autriche, n'importe où?
La réponse est qu'effectivement, on se coordonne. Pour finir la réponse sur le transport, donc les compagnies aériennes auront deux possibilités. Soit vous avez votre code qui vous démontre que vous n'êtes pas porteur de la maladie, vous êtes vacciné, vous avez des anticorps ou que votre test PCR est négatif. Mm-hmm. Soit vous n'avez pas et on vous demandera à ce moment-là de faire un test rapide. Ça peut être un test
antigène. Est-ce que le fait d'être vacciné,
toujours veiller à ce qu'il y ait la possibilité qui soit offerte, mais ce sera beaucoup plus fluide pour ceux qui auront ce premier instrument qui démontrera plus rapidement, plus facilement votre état par rapport
à
la maladie.
Mais plus fluide, ça sera pas la même chose dans chaque pays.
On est en train vraiment de l'harmoniser et tout le monde respecte ces règles de bon sens. On veut vraiment. L'ambition, c'est quoi? L'ambition, c'est qu'on rouvre au plus vite, évidemment, et qu'on puisse circuler. Alors, on va circuler plutôt en Europe, parce qu'on voit qu'encore en dehors, ça revient à notre discussion tout à l'heure. On va livrer plus d'un milliard de doses en Europe au second semestre. Et on sait que ce milliard, on aura déjà pratiquement tous été vaccinés au cours de l'été, ça va servir pour nos voisins. Il faut qu'on s'en occupe. Personne d'autre s'en occupe. Mmh. C'est nous qui allons nous en occuper. Mmh. Mais c'est aussi notre intérêt. C'est nous qui fournissons 70% des doses aux Britanniques. Et là, ils sont en train de se rendre compte que malgré le Brexit, ils sont dépendants encore plus de nous qu'avant, parce que leurs amis américains les ont lâchés en grande campagne. Bon, on va pas les laisser tomber.
Non, d'autant qu'ils ont repris leur vie quasiment d'avant et qu'ils ont pris aussi une belle avance sur le plan économique.
Pas sur le plan économique.
La machine a redémarré et elle redémarre beaucoup plus vite.
Pas sur le plan économique. Regardez, mais vous savez pourquoi elle redémarre plus vite? Parce qu'il était tombé tellement bas que le différentiel est un peu plus haut. Mais quand vous faites la réalité, c'est absolument, j'allais le dire, tragique.
Alors restons justement sur les questions économiques. Face à cette pandémie, en plusieurs mois, on a Joe Biden qui a présenté plusieurs plans de relance. À chaque fois, ça chiffre en milliers de milliards de dollars. Qu'est-ce qu'elle prépare, elle, l'Union européenne? Est-ce que après ce premier plan de relance de 750 milliards d'euros, est-ce qu'il faut envisager un second plan? Est-ce qu'il est nécessaire de le relancer, ce plan?
Alors, cette question attire de ma part, si vous permettez, deux réflexions. La première, c'est que beaucoup d'Européens dont je fais partie se réjouissent de l'élection du président Biden. Même si moi-même, j'entretenais des relations, c'était normal que je les entretienne avec l'administration précédente, je dirais, à ce qualité. Voilà. C'est sûr que quand on est là et qu'on arrive et qu'on dit et 1000 milliards ici, 1000 milliards là, 1000 milliards là, on devient très populaire, ça c'est sûr. Surtout quand c'est la planche à billets qui tourne et qu'on sait jamais comment elle sera remboursée. Donc c'est sûr que...
Ça paraît assez bluffant.
C'est bluffant effectivement d'avoir la planche à billets. Le roi de l'art, on tourne, on se préoccupe pas. Donc voilà.
Oui, c'est un État fédéral.
Oui, c'est ça. Puis à un moment,
a la monnaie la plus puissante au monde.
Puis on va juste se demander à un moment comment on va faire pour rembourser, parce que sans ça va être une hyperinflation, ça va être des taux d'intérêt.
C'est de la démagogie ou c'est un mauvais...
Attendez, je regarde ça.
En fait, vous êtes inquiet.
inquiet?
Oui, bien sûr que je suis inquiet, parce que, attendez, voilà, on peut pas annoncer des 2000 milliards ici, des 1000 milliards, d'abord, ils sont pas encore votés. Très bien. Nous, en Europe, on a fait, alors moi je m'en cache pas, je l'avais écrit, du reste vous le savez, on en a parlé. Oui. On avait fait avec mon collègue Paolo Gentiloni, qui est le commissaire à l'économie, avant même que le plan ne démarre en Europe, on avait estimé que ce serait bien d'avoir 1500 milliards. J'ai pas changé.
Bon, alors, donc on le a, doute on, de ce on qu'on
trouvé,
avait prévu.
Non, on a fait 750 milliards, on a 540 milliards qui ont été aussi trouvés, vous vous souvenez, lors des réunions de l'Eurogroupe, donc on n'est pas très loin. D'accord. Mais je pense effectivement la question méritera d'être posée. Mais je voudrais m'arrêter.
Aux Européens aussi?
Bien sûr.
Comment rembourserons-nous la dette?
Deux questions. D'abord, juste une réflexion qui est très intéressante, me semble-t-il, par rapport à ce jour de l'Europe. Tous les États membres qui ont voté et qui vont recevoir cet argent...
Quand ?
Ils vont le recevoir dans le courant de l'été, j'espère. L'été, ça se finit fin septembre, donc j'espère vraiment que ce soit avant la fin de l'été. En tout cas, on fait tout pour ça. Mais les États sont déjà intervenus, donc on va les rembourser. Il n'y a pas de souci. Ça va se faire. Et ça va se faire, je l'espère encore une fois, avant la fin de l'été. Il n'en demeure pas moins qu'il y a une partie, évidemment, où on va, qui sera remboursable sur une échéance de près de 30 à 40 ans. Ben vous voyez, ça veut dire là aussi que l'Europe a fait un saut quantique à deux dimensions. D'abord, on a décidé de mutualiser, et d'autre part, tous ceux qui ont maintenant une dette à 40 ans, là aussi, je pense qu'on est parti pour 3 ou 4 décennies où il y aura beaucoup moins de velléité de quitter l'Europe, parce que ceux qui la quitteront devront rembourser immédiatement. Ça va changer beaucoup de choses, vous savez.
La dette perpétuelle.
J'en reviens un peu sur le différentiel de croissance entre les États-Unis et l'Europe. Est-ce que, au fond, on n'est pas doublement perdant, parce qu'on peut avoir de l'inflation, effectivement une tension sur les taux d'intérêt, et puis au fond, d'être encore en retard par rapport aux États-Unis, parce qu'on n'aura peut-être pas mis le paquet au même moment.
Ben, on a mis le paquet, on a vraiment mis le paquet, puisque encore une fois, je le rappelle, les États membres, nous, ce qu'on a veillé, moi vraiment, ma crainte, Mme Fressos, je vous le dis vraiment sincèrement, pourquoi est-ce qu'on a écrit cette tribune début avril avec Paolo Gentiloni, c'est parce qu'on voyait bien qu'il n'y avait pas un État au monde qui pouvait faire face aux besoins de trésorerie sur ses fonds propres. Tous les États ont dû s'endetter, et que nous, on voulait que, précisément, comme c'est une période très inédite, on voulait que tous les États européens aient cette même capacité d'endettement, et c'est ce qu'on a offert, précisément, avec, et après, évidemment, c'est historique, cet accord entre la chancelière Merkel et le président Macron, qui a donné ce fameux saut quantique dont je parlais tout à l'heure, et qui fait que l'Europe, maintenant, est différente. Elle est beaucoup plus européenne, j'allais dire. Il n'en demeure pas moins que il faudra, évidemment, continuer à aller de l'avant. Mais il faut se préoccuper, parce que je le dis, là encore une fois, de façon très claire, toute dette doit être remboursée. Donc il faudra qu'on se préoccupe de la
rembourser.
C'est comment,
et c'est comment. Alors, vous la posiez, cette question, comment aux Américains, on peut la poser aussi aux Européens.
Et c'est précisément ce qu'on appelle, j'aime pas ce terme, mais c'est des mécanismes d'ajustement carbone aux frontières. Certains appellent ça taxe carbone aux frontières, pour précisément éviter qu'il y ait des produits qui n'aient pas les mêmes nécessités que nous en ce qui concerne la fabrication et les règles vis-à-vis de l'émission du CO2. C'est aussi les taxes sur le numérique. On a beaucoup d'éléments où on est d'accord, si vous voulez, pour ouvrir évidemment nos frontières aux autres, mais désormais, et c'est aussi très nouveau, l'Europe n'est plus ouverte à tout vent, et ça c'est quelque chose qui s'est passé depuis ces derniers temps, et c'est un changement radical. L'Europe est ouverte, certes, mais à nos conditions.
Mais à la question « comment rembourserons-nous la dette ?», vous répondez par des taxes.
Je réponds par le fait, d'abord, la dette, elle sera remboursée par la création de richesses, qui viendra évidemment de l'augmentation de la croissance, mais qui viendra évidemment aussi, ben, vous savez, c'est déjà le cas. Le budget de l'Europe, il est essentiellement abondé par les droits de douane. On va élargir les droits de douane à deux espaces qui sont très importants, l'espace écologique et l'espace informationnel, et ça, évidemment, ben, c'est ceux qui voudront bénéficier de notre marché intérieur qui le paieront, c'est eux qui paieront, oui, bien sûr.
Nathalie, avant votre portrait.
Thierry Breton, pour apaiser les angoisses d'Ali concernant la dette, on a l'impression que...
Angoisse relative.
On a l'impression que Joe Biden, c'est une espèce qui a été qualifié de nouveau Roosevelt, a proposé un certain nombre de choses extrêmement créatives entre la taxation des multinationales, la taxation des grandes fortunes. Est-ce que l'audace n'est pas passée du autre côté de l'Atlantique et que nous, on joue un peu petit bras en Europe en étant assez peu créatifs sur les façons de
récupérer. Là, je vous trouve un peu critique. Vous me faites réagir parce que c'est quand même qui les premiers ont poussé pour pouvoir taxer précisément les gens du numérique. Et Dieu sait qu'il y a eu la résistance. Alors, ils nous rejoignent un petit peu. Qui a poussé
tout à l'heure, vous aviez l'air d'avoir des doutes sur Joe Biden et ses intentions.
Non, j'ai pas des doutes parce que je suis très heureux. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans cette administration, donc j'ai pas de doutes. Je veux juste
rééquilibrer, si vous voulez.
L'Europe, nous sommes quand même un continent qui est une fois et demie plus gros que les États-Unis en matière de démographie, donc on n'est pas un petit continent, vous voyez. Donc on a aussi des idées, et bien souvent avant celles des Américains, notamment en ce qui concerne le CO2, pardon, mais enfin on a été les premiers, notamment en ce qui concerne, je dirais, un juste rééquilibrage d'un impôt sur les géants du numérique, c'est nous. Les Américains nous rejoignent. Très bien, ils sont partis, ils nous rejoignent.
Mais c'est parce qu'ils vous rejoignent que ça se fera.
Mais bien sûr,
au fond, c'est ça la faiblesse de l'Europe. C'est qu'on a des idées, mais on n'arrive pas à les appliquer.
Non, pardon madame, c'est pas l'Europe, c'est l'OCDE là. Donc c'est l'OCDE, c'est pas l'Europe. On s'est dit qu'on voulait le faire précisément au niveau de l'OCDE. Donc vous voyez, et l'Europe unanime...
Enfin, il aura fallu que Joe Biden le demande pour que ça puisse être pensable.
Non, souvenez-vous, ici même encore à ce micro, je
mais
vous avais dit
s'en souvient, Thierry Breton.
Et bien, qu'est-ce que je vous avais dit?
C'était impossible quand vous en parliez. Non, Joe Biden l'a annoncé.
Je vous avais dit,
c'est possible.
Les Américains viennent de partir, mais leur siège est ouvert, on va le garder bien au chaud, et je suis sûr qu'ils reviendront. Eh bien, ils reviennent.
Notre invité jusqu'à 13h est le commissaire européen chargé du marché intérieur, de la politique industrielle, du numérique, de la défense et de l'espace, Thierry Breton.
France Inter, Ali Badou. Question politique.
Et vous voyez qu'on peut se passionner à propos de l'Europe, Thierry Breton, c'est une bonne nouvelle.
On vous a entendu.
Oui, je ne sais pas si nos auditeurs vous ont entendu, mais vous aviez une petite appréhension avant le portrait. Vous aurez l'occasion d'y réagir, vous garderez votre flegme. Votre portrait, Thierry Breton, signé Karine Bécard.
Il y a exactement 35 ans, Thierry Breton, vous vous lanciez dans un projet qui vous ressemblait. Accompagner la construction du Futuroscope de Poitiers. À l'époque, c'était une incroyable révolution, on l'a un peu oublié, parce qu'il fallait imaginer l'avenir, donc être capable de l'anticiper, mais c'était tout à fait à la hauteur et même au cœur de l'ambition du jeune ingénieur que vous étiez. En tout cas, toutes vos idées sur le progrès, René Monory avait osé les écouter, président de la Vienne pendant 27 ans, président du Sénat bien sûr également. Vous lui aviez apporté vos intuitions technologiques, il vous a fait pénétrer dans les coulisses de la vie politique.
J'ai rencontré comme ça par hasard. Puis on avait discuté tous les deux, puis il a dit « si, je venais chez vous ». Bah, j'y venais, puis on s'est mariés comme ça, voilà.
On s'est mariés comme ça. Voilà pour les origines. Après cela, tout le monde connaît vos états de service, Thierry Breton, à la fois dans le public, dans le privé et en politique. Vous êtes considéré comme un redoutable redresseur d'entreprise après les épisodes Thomson et France Télécom. Vous êtes aussi resté 10 ans à la tête d'Atos, leader européen du cloud, notamment, manière de prouver que vous saviez durer. Quant au ministre de l'économie, il a surtout vendu des autoroutes et fait la chasse au moindre déficit.
Tout se paye. Et donc j'essaie d'expliquer de façon pédagogique que tout se paye en économie.
Oui, mais cela c'était en 2007, parce que depuis un an, nouvelle doctrine, tous dépensent, reste à savoir précisément jusqu'à quand. Désormais, Thierry Breton a 66 ans, vous êtes donc commissaire européen depuis 18 mois maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est que vous qui avez toujours... tout compris, tout saisi, tout réussi. Vous avez évidemment su faire oublier qu'après Sylvie Goulard, vous étiez un plan B. Sincèrement, vous l'avez rapidement éclipsé. Mais ce qui vous a échappé, peut-être Thierry Breton, ce sont tous nos bouleversements environnementaux. Bien sûr, vous les avez intellectuellement intégrés, mais vous ne semblez pas prioritairement vous y attaquer. Pourtant, ils sont notre avenir, eux aussi. Un avenir qu'il faut être capable d'anticiper. Alors saurez-vous, une nouvelle fois, innover, inventer, explorer, en conjuguant toutes vos technologies à l'écologie.
Réaction Thierry Breton.
Bien, d'abord deux choses. De l'émotion en voyant René Monory. C'était sans doute à la fin de sa vie, et donc de l'émotion. Il a été mon premier patron, et il m'a tout appris en politique, et en me disant du reste deux choses. La politique, c'est que des rapports de force. Et généralement, c'est celui qui paye qui est dans le siège du conducteur, dans le driving seat. J'ai jamais oublié cette phrase. J'essaie de l'appliquer désormais un petit peu dans mes fonctions actuelles. Le deuxième point, c'est sur l'écologie. Vous avez raison, c'est un sujet absolument essentiel. Et dans la responsabilité qui est la mienne, pour pouvoir accompagner cette transition, mais incroyable, en 30 ans, faire en sorte qu'on devienne le premier continent zéro carbone, c'est une révolution industrielle extraordinaire, non seulement laquelle je crois, mais que je m'applique à réaliser sur le terrain, puisque moi je suis celui qui est en charge des entreprises, pour le faire de façon opérationnelle. On a diviser, organiser le marché intérieur en 14 écosystèmes, l'automobile, l'aéronautique, la pharmacie. Et avec mon collègue Nicolas Schmitt, qui est le commissaire en charge des affaires sociales et aussi de l'éducation, nous avons un par un passé avec tous les acteurs de l'écosystème, c'est-à-dire les grandes entreprises, les petites, les PME, les start-up, etc. Mmh. On les revoit un par un pour définir qu'est-ce que ça veut dire en matière d'investissement, qu'est-ce que ça veut dire en matière de formation, qu'est-ce que ça veut dire en matière d'éducation. Alors on en est à 11 écosystèmes, il me reste encore 3 à faire, mais croyez-moi, il y a une ambition, et toutes les ONG qui participent pourront vous le dire, les syndicats aussi, il y a une ambition, et ce qui est formidable, je dirais une convergence de vues, qui est absolument exceptionnel. C'est mon rôle, en tout cas, d'y contribuer. Je suis pas seul, comme vous le voyez au collège, mais on tire tous dans le même
mais
sens.
Mais le sentiment que l'économie passe avant l'écologie, c'est une fausse impression qu'on a?
L'écologie fait partie de l'économie, désormais. C'est ça qui est vraiment, et c'est ça la révolution. Il faut vraiment qu'on l'explique à tout le monde. C'est quelque chose qui fait partie intégrante de la vie. Vous savez, j'étais à Berlin la semaine dernière, et je me suis entretenu pendant plus d'une heure avec la responsable des Verts, madame Annalena Baerbock. Et en fond, de quoi on a parlé? On a parlé de ça, et on a parlé d'une application très importante, qui est l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est la capacité de recycler précisément pour faire face à ces défis. Donc voilà, on se rejoint.
Y compris vous avez parlé du charbon? Puisque c'est une belle question, on parle de Schuman, on parle de la communauté européenne du charbon et de l'acier. On sait que l'Allemagne a renoncé au nucléaire et qu'elle utilise du charbon pour produire de l'électricité. Est-ce que vous en avez parlé avec elle en lui disant il va falloir revenir sur ce choix?
Non, on n'en a pas parlé, mais mon point de vue, il est connu. Mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, on va pouvoir atteindre cet objectif grâce au nucléaire. Alors le nucléaire, c'est deux choses. Il y a d'abord les centrales nucléaires existantes.
La première économie d'Europe n'en veut pas?
Oui, elle en veut pas, mais enfin, demandez, on est tous très contents que la Chine nous ait rejoint en 2060. Vous savez quelle va être la fabrication d'énergie au nucléaire? Ça va être gigantesque. La Chine va atteindre cet objectif en devenant de très, 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 très loin.
Non, mais
là,
je vous parle de la première économie européenne.
Moi, je vous parle de la première économie mondiale. Donc, si vous voulez, voilà. Ça veut pas dire qu'il faut aller dans ce sens.
Oui,
ça
mais vous êtes en charge de l'Europe.
Oui, et donc, je dis deux choses. Je dis qu'aujourd'hui, on a une énergie, effectivement, de transition, qui est une énergie totalement décarbonée. Et puis derrière, il y a la fusion nucléaire. On a l'impression de l'oublier. C'est toujours la même chose. C'était le cas pour les vaccins. C'est le cas pour l'énergie. C'est la recherche. C'est la science qui nous font progresser. Souvenez-vous que la France a la chance d'abriter en son sein, d'abriter sur son territoire à Cadarache, ITER. Ben, je vais aller m'y rendre avec ma collègue qui est en charge de l'énergie prochainement, parce que c'est comme ça qu'on pourra vraiment obtenir l'énergie qu'il nous faut, y compris avec une énergie propre.
Françoise Fressoze.
Comment vous voyez la sortie de la crise épidémique, en tout cas cet été? Est-ce que vous voyez des années heureuses ou une relance un peu plombée par des inquiétudes persistantes? Comment vous sentez la situation?
D'abord, il faut toujours, pour répondre à cette question, il faut d'abord toujours se mettre dans, si on peut, et j'essaie de le faire en permanence, je dirais dans la situation, dans la vie de nos concitoyens, et en ce qui me concerne, de nos concitoyens européens. Et je vois très bien, bien entendu, d'abord au sein de nos familles, mais aussi évidemment dans tous les pays, cette situation, les failles que ça a créé, les stigmates que ça a créé, il y aura vraiment un avant, un après. Il y a vraiment un appétit de retrouver, ne serait-ce qu'une socialisation. Nous sommes là pour ça. Donc vraiment la volonté de se retrouver, d'être ensemble, de pouvoir se toucher, de bouger, elle est gigantesque. Mais il n'en demeure pas moins.
Ça va être les années folles.
Je ne sais pas, parce que sur les téléphones, on avait décidé, on portait plus le masque, il n'y avait plus rien. Là, je suis pas sûr qu'on sera peut-être pas encore pendant quelques temps encore obligé d'avoir, je suis même certain du contraire, on sera obligé de maintenir des précautions, des gestes barrières. Donc, on va sortir progressivement. Il faudra continuer à être attentif. On va apprendre à vivre avec ça. Souvenez-vous que on moquait un peu quand on allait il y a encore quelques années dans certains pays d'Asie du Sud-Est, on moquait le fait que les habitants porter des masques. Bon, ben, peut-être que pour nous, on va être obligé de s'habituer à ça. Ça fait pas partie de notre culture. On va le faire. Voilà. Donc, j'envisage une sortie qui va être une sortie progressive. On va apprendre, évidemment, on va retrouver notre vie, je dirais, plus normale. On aura, il y a des conséquences qui vont être tirées. Tout le monde pense au télétravail, aux entreprises, aux rencontres virtuelles. Ça, bien entendu, ça va continuer. Il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, la vie va s'organiser autrement. Mais je pense qu'il y aura vraiment un engouement, une envie d'aller, de se retrouver ensemble et sans doute aussi de consommer, oui, je pense.
Et alors, l'épidémie.
Karine Bécart.
Alors, l'épidémie, effectivement, occupe largement nos esprits. On sent quand même dans la société, et notamment dans la société française, beaucoup d'interrogations, d'inquiétudes sur les questions de sécurité. Emmanuel Macron, hier au sommet social de Porto, en a même parlé. Il a dit effectivement que les sujets de sécurité en France étaient en train d'enfler. On a le sentiment d'entrer dans une atmosphère délétère comme celle qu'on a pu connaître il y a 20 ans, au moment de l'élection présidentielle de 2020. Est-ce que vous partagez ce sentiment-là? Est-ce qu'une atmosphère délétère est en train de s'installer en France?
Thierry Breton.
Encore une fois, je suis commissaire européen, donc j'essaie d'éviter de parler de ce qui se passe dans tel pays.
Vous comparez en tout cas par rapport aux autres pays.
Mais en comparant par rapport aux autres pays, bien entendu que je vais me permettre un tout petit peu d'élargir et puis on comprendra évidemment ce que à travers mes
propos,
ce que je veux dire. Non, voilà, on l'a rappelé tout à l'heure. L'Europe s'affirme. L'Europe désormais est beaucoup plus assertive. L'Europe met ses conditions. On l'a vu en économie, on vient de le voir par exemple pour les investissements étrangers, pas plus tard que la semaine dernière, on a fait quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer, on va maintenant contrôler ce qui se passe, on va pouvoir éjecter des entreprises qui sont financées par des pays tiers, on pense en particulier à la Chine. Donc on est assertif. On est assertif aussi sur la crise des migrants, on le sait, on est beaucoup plus désormais homogène et harmonisé qu'on l'était en 2016, on le sait aussi. Il n'en demeure pas moins qu'on connaît aussi nos responsabilités, notre rôle, et puis derrière, je vais vous dire les choses comme je les pense, on a un devoir gigantesque avec la Chine, avec l'Afrique, pardon, gigantesque. C'est notre responsabilité, et c'est vers l'Afrique qu'il faut tourner tous nos efforts. Et moi personnellement, dans mon portefeuille, je m'y emploie parce que en 2050. Près de la moitié de la population, moins de la moitié, mais qui vivra sur trois fuseaux horaires nord-sud, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper.
Et Françoise Fraisseuse.
Emmanuel Macron laisse entendre que l'Europe sera une part importante de sa campagne électorale. Avant ça, il y aura la présidence française. Est-ce que vous pensez que Schengen, dont on nous avait annoncé que ça devait être révisé, est un élément important? Et je fais le lien avec la question de Karine, non pas faisant le lien entre la sécurité et l'immigration, bien que certains le font. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de ce côté-là et qu'il va falloir le régler rapidement avant que ça nous revienne en boomerang?
Écoutez, je trouve qu'on a fait énormément de progrès. Il y a toujours un problème. C'est pas encore. D'abord, comme vous le savez, on est en train de donner des moyens tout à fait considérables à notre agence Frontex. Et ça, c'est quand même complètement nouveau. Ça va devenir quand même. On passe de 600 à 10 000 personnes, quand même. C'est quand même énorme. Ça va devenir la première, entre guillemets, organisation armée européenne.
Mais dont une partie de son rôle et de son fonctionnement est un peu critiquée.
Oui, ça a été compliqué à mettre en œuvre, vous avez raison. Ça a été compliqué à mettre en œuvre, le siège est à Varsovie, ça a été compliqué à mettre en œuvre, mais ça avance. Et honnêtement, là encore, je dirais, Madame Saint-Cricq, c'est un peu comme ce que je viens de dire sur une Europe plus assertive, une Europe qui choisit désormais parce qu'elle fait avec ses partenaires et non plus qui en est, je dirais, quelquefois la victime. Je pense sincèrement que avec ce qu'on fait sur Frontex, les choses vont changer radicalement. Donc voilà, on progresse.
Mais votre radicalement,
on progresse comme jamais.
Votre radicalement sera pour quand?
Là, au cours de ce mandat.
Françoise Fraisseuse.
Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme dossier abouti, justement, sous la présidence française de l'Union européenne, qui va être un moment clé dans la campagne présidentielle française?
Thierry Breton.
C'est encore une fois, vous savez, on a des institutions qui sont très claires, on en reparlera peut-être, même si elles ne paraissent pas, j'en conviens toujours très clairement à nos concitoyens, mais moi, elles sont maintenant très claires dans ma tête, et elles fonctionnent finalement pas trop mal par rapport aux enjeux qui ont été les nôtres et qui seront les nôtres. Donc je ne vais pas me substituer à la présidence française. Je sortirai totalement de mon rôle. En revanche, dans mon portefeuille, je peux vous dire ce que je vois. On a maintenant un certain nombre d'alliances qui vont être lancées, une alliance dans les semi-conducteurs. C'est absolument essentiel que l'Europe retrouve son leadership qu'elle a perdu. Il faut dire les choses. Dans les processeurs et les semi-conducteurs, on voit la guerre des puces aujourd'hui et il faut absolument la rééquilibrer. Dans les lanceurs spatiaux, c'est absolument important. L'Europe spatiale, c'est absolument capital. On est la deuxième puissance spatiale mondiale. Non seulement on va la rester, mais il faut qu'on ait une stratégie encore plus offensive.
On perd du terrain.
Notamment. Si vous voulez, les choses vont vite. La technologie est là. Il faut prendre une rupture de technologie. Je pense en particulier
aux lanceurs renouvelables. Mais c'est comme les semi-conducteurs. On a pris un retard considérable. Il va falloir des milliards d'euros et des années.
Oui, mais
pour
les Américains font pareil.
Retard.
Tout le monde fait pareil. Les Américains font pareil. Et les Chinois aussi. Oui. Les Américains mettent 50 milliards sur la table. Les Chinois 200 milliards. Donc nous, on va en mettre aussi.
Et la course à l'espace. On voit des acteurs privés qui vont plus vite et qui ont de meilleurs résultats.
Vous avez vu ce qui s'est passé cette nuit avec une fusée chinoise, c'est quand même pas simple, hein. Voilà. Donc il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Il faut qu'on continue à maintenir notre position. Nous, on est entre les deux, mais on a bien l'intention de garder cette position entre les deux et de se rapprocher plus des Américains sur ce domaine que des Chinois, si je peux dire. Mais voilà. Donc il y a un autre sujet. Je veux pas du tout me donner le sentiment de ne pas répondre à votre question, mais moi, ce que je vais faire, c'est qu'on soit prêt, notamment, sur la discussion. On est maintenant au Parlement. Nous sommes une démocratie. On a présenté, donc, l'organisation de l'espace informationnel, la régulation des GAFA, donc avec le DSA et le DMA, vous vous en souvenez, c'était en décembre de l'année dernière. Maintenant, on est en discussion parlementaire au Parlement européen et au sein du Conseil européen. Et je fais tout pour qu'on puisse essayer d'aboutir, ce serait formidable, précisément. Alors, c'est pas parce que c'est la présidence française. C'est parce que ce serait extrêmement rapide et que ce serait une première. Alors si en plus c'est la présidence française, c'est vrai que ça me fera chaud au cœur.
Alors il ne reste que quelques minutes. On aimerait bien vous entendre un petit peu quand même sur la politique française à un an des élections présidentielles, de l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe à droite et de cette alliance qui a avorté en PACA entre La République En Marche et Les Républicains? Qu'est-ce que vous pensez de votre famille politique ou de votre ancienne famille politique, Les Républicains? Est-ce que deux droites irréconciliables effectivement existent? Et ce que j'aimerais savoir surtout, c'est les Chiraciens, dont on a beaucoup parlé cette semaine, vous les connaissez bien, vous les avez bien connus, ils se situent dans quel camp s'il y a effectivement deux droites irréconciliables?
Oh, ben vous savez...
C'est
un secret pour personne, hein. Les Chiraciens dont je fais partie, ils ont... Alors, je vais parler du passé plutôt, puisque je n'étais pas encore commissaire européen, donc je peux en parler très librement. Ils ont voté massivement pour Emmanuel Macron, et je m'en suis réjoui. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait, les Chiraciens.
D'accord, mais donc, vous voyez deux droites irréconciliables? Bah, les Chiraciens doivent être du côté des macronistes?
Après, vous avez les jeux. Vous savez, je vais vous répondre avec ce que je vois. Alors, pardon, mais d'abord...
Vous avez un devoir de réserve?
J'ai un devoir de réserve, mais vous voyez...
Qu'on entend de ce que vous venez de dire,
D'abord, en tant que Chiracien, je vous dis comment j'ai voté, et avec moi, beaucoup de mes amis Chiraciens, lors des dernières élections.
Les Juppéistes, en fait, pas les Chiraciens, si?
Non, Chiraciens. Chiraciens. Juppé était Chiracien, c'était pas l'inverse. Hein. C'était pas Chirac qui était Juppéiste. Voilà.
Rentrons pas dans ces subtilités.
Non, c'est une subtilité quand même qui est quasiment institutionnelle. Mais juste pour répondre à votre question, qui est très intéressant. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au sein de la CDU. Au sein de la CDU, en Allemagne, il y a des élections très importantes.
Dans cinq mois,
on voit que les Verts
sont
en train de faire un parcours tout à fait exceptionnel. C'est vrai que les Verts allemands,
c'est
pas les Verts français.
Ma question.
Mais juste pour finir, vous voyez, la CDU, elle est dans un état très... Je me suis demandé quand même un moment, mais ça c'est une question tout à fait personnelle, hein, est-ce que finalement, quand on a été pouvoir pendant un certain temps, est-ce que ceux qui vont quitter le pouvoir estiment qu'ils ont un devoir pour maintenir leur parti en l'état ou pas? Je ne sais pas exactement ce qu'a fait M. Sarkozy sur la République.
Justement, pour continuer notre jeu,
Nathalie.
Entre les Verts allemands et nos Verts à nous, si on peut dire, quelles sont les différentes? Parce que je m'interrogeais un peu sur le fonctionnement du couple franco-allemand dans l'hypothèse où on travaille.
Non, moi je vois, d'abord, je m'entends...
Qu'est-ce qu'ils ont qu'on n'a pas?
J'ai de très bonnes relations avec, parce que c'est ma fonction et c'est normal, avec les Verts au Parlement européen, c'est un groupe important, hein, et notamment avec les Verts français, j'interagis, et c'est normal, et par rapport à la question de tout à l'heure, donc sur l'aspect écologique, Green Deal, comme on dit, donc c'est normal, j'ai beaucoup d'échanges très constructifs avec Yannick Jadot, mais c'est vrai que les Verts aujourd'hui, tel que je les vois, de là où je suis, c'est vrai que les Verts allemands, allemands donnent en tout cas une image d'unité assez forte.
Et de responsabilité, comme Yannick Jadot, vous avez l'air de dire plus que les autres.
Non, je ne vais pas citer les autres, mais bon, le Philippe Lambert, qui est le président du groupe Vert, je l'ai très souvent. Madame Petra de Sutter, qui maintenant est vice-première ministre belge, était aussi une femme extrêmement active et engagée belge.
Ce que vous nous dites, c'est qu'on peut être macronien, on peut être éventuellement même de droite et travailler avec l'Europe Écologie Les Verts, par exemple.
Mais vous savez, les temps qui viennent sont tellement difficiles que je ne vais pas vous dire qu'il faut faire tout ça en même temps, mais je vais vous dire que je pense que c'est bien de pouvoir s'associer. Au fond, vous savez, les démocraties où on essaie de s'associer avec des partis politiques qui partagent l'essentiel de vos valeurs, c'est quand même pas mal par rapport aux enjeux qui vont être les nôtres.
L'émission se termine. Thierry Breton, il vaut mieux être à Bruxelles ou à Paris en ce moment? Bruxelles, les terrasses sont rouvertes, mais les embouteillages ont repris. Mais il pleut. Paris, il fait encore beau, mais tout est fermé.
Écoutez, puisque vous me posez la question comme ça, à Bruxelles, je suis dans mon bureau de très tôt le matin à très tard le soir. Et à Paris, quand je suis pendant le week-end, j'ai le plaisir de venir ici. Donc c'est pas mal Paris quand même.
Paris est une fête. Merci Thierry Breton et bon dimanche. Merci à toutes les trois. Merci à Alexandre Gilardi, Stéphanie Boutonnat et toute l'équipe de Questions Politiques. Rendez-vous dimanche prochain.